Nous allons commencer par une intervention donc de Vincent Calame, qui est informaticien et bénévole à l'April, et qui fait beaucoup de choses pour le logiciel libre, j'y reviendrai à la fin, et qui nous propose une chronique intitulée « Jouons collectif ». Alors déjà, Vincent, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton profil, ton parcours ?
Alors oui, je suis donc informaticien, je conçois et je code des logiciels libres, j'ai ma propre petite société, je travaille depuis... plus de 15 ans étroitement avec une fondation, la fondation Charles Leopold Meyer pour le progrès de l'homme, ce qui m'a amené donc à travailler pour eux, mais aussi pour de nombreux collectifs et associations militantes en France et à l'international.
Alors on va préciser tout de suite que donc la fondation Charles Leopold Meyer pour le progrès de l'homme est située dans le 10e arrondissement de Paris et qu'elle accueille très souvent des événements libristes, et notamment grâce à ta présence à toi, Vincent Calame. Donc il y a des réunions d'April, il y a des soirées de contribution le jeudi soir, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent dans cette fondation qui est donc située dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, dans le 11e, excuse-moi, voilà, là, c'était... Tu vois, quand je prépare pas, je confonds le 10e et le 11e. Donc, dans le 11e, vers à côté de Bastille. Donc, ta chronique s'appelle Jouons collectif et la description, c'est choses vues, entendues et vécues autour de l'usage du logiciel libre au sein des collectifs, donc associations, mouvements, équipes en tout genre. Et en gros, c'est le témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Alors, est-ce que tu peux déjà nous introduire la chronique et le premier sujet aujourd'hui que tu souhaites aborder ?
Oui, alors informaticien embarqué, parce qu'effectivement, je me retrouve souvent dans le cadre d'événements ou pour des projets plus long terme de sites web ou d'organisation de travail, de comment un groupe travaille, notamment quels sont les meilleurs outils, en particulier à l'international, quels sont les meilleurs outils de travail à distance pour ces collectifs-là. Et je me retrouve souvent le seul informaticien, et donc informaticien de service qui gère aussi bien des petits problèmes de branchement d'ordinateur que des problèmes de disque dur ou mon corps de métier qui est quand même de coder. Mais en fait, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, une fois qu'on a touché un peu l'informatique, on est censé tout savoir et pouvoir intervenir sur tous les sujets. Et voilà, donc je voulais profiter de cette chronique pour témoigner de comment on passe le logiciel libre à des non-informaticiens, mais dans le sujet du monde associatif. Il y a plein de manières, de lieux où passer le logiciel libre auprès du grand public, mais ça, c'est plutôt des actions de sensibilisation. Et moi, c'est plutôt quand je suis confronté à un groupe, d'essayer de proposer du logiciel libre et de le faire adopter, ce qui n'est pas toujours simple.
Alors justement, c'est un peu le point de départ de la chronique, c'est pas toujours simple. Et pourtant, le logiciel libre devrait aller finalement de soi dans les milieux associatifs et notamment les collectifs militants. Et pourtant, finalement, de ton expérience, ça ne va pas si de soi aussi facilement. Alors, quelles sont les raisons ?
Oui, alors les raisons, bon, il y a une raison pratique au début qui est le poids de l'habitude, des pratiques. Il y a également, faut dire, quand on est face à Google, il y a la force de frappe des financières et techniques de ces grands groupes qui fait qu'on est un peu... il est difficile de lutter parfois contre des outils qui marchent très bien. C'était limite plus facile il y a une dizaine d'années quand on était face à Microsoft et ses problèmes récurrents. Là, quand on est face au GAFA, c'est plus compliqué de proposer des outils alternatifs quand les gens ont déjà leurs habitudes.
Alors, tu as parlé des GAFA, on peut parler des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En gros, c'est les géants d'Internet dont le modèle économique est basé sur la captation des données des personnes qui utilisent ces services.
Tout à fait.
Je te laisse poursuivre.
Voilà, donc ça, c'est... Donc, il y a beaucoup de raisons pratiques. Je vous précise qu'il y a aussi... De ma part, de mon expérience, au début, quand on est militant du logiciel libre, on a une petite naïveté quand on aborde ces collectifs, en pensant que ça allait de soi qu'ils allaient se mettre au logiciel libre, parce qu'on est les gentils, c'est les méchants, et qu'il y a des proximités de valeurs, de partage, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on se rend compte, moi, ce que je me suis rendu compte, et pour moi, une des raisons assez profondes, c'est qu'au fond... pour beaucoup de gens, l'informatique, c'est quand même quelque chose d'hostile. Et c'est un outil pour moi hostile et aliénant, notamment dans un cadre professionnel. je pense pas au quotidien. Je veux dire, c'est très, c'est pour un usage privé, ça peut être, c'est très agréable. Mais je pense que pour beaucoup de gens dans le monde professionnel, l'informatique est quelque chose de pénible qui fait perdre de la maîtrise. Je prends un exemple qui est hors du cadre associatif, mais pour les garagistes, maintenant, réparer une voiture, c'est brancher un ordinateur et regarder ce que fait le tableau de bord. Il n'y a plus du tout la noblesse du métier, on va dire, de réparer le moteur, et ce qui sans doute faisait la passion des gens qui aimaient la mécanique.
Et il faut disposer d'une mallette qui est fournie par le constructeur de la voiture, et sinon, effectivement, la plupart des interventions ne peuvent pas être faites aujourd'hui sur les voitures.
Oui, voilà. Et je pense qu'il y a énormément de métiers qui ont perdu cette maîtrise de leur outil. Et nous, en informaticiens, on reste beaucoup devant notre écran, mais au fond, quand on regarde dans un milieu professionnel, tout le monde reste devant son écran face à des logiciels qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas, qui leur imposent des choses et qui sont... qui peuvent même les freiner, qui sont censés les aider, mais qui peuvent les freiner ou les contrôler. Donc, pour moi, donc, l'informatique a mauvaise presse auprès des gens, et c'est pour ça que c'est considéré comme quelque chose à part.
Alors, tu as parlé d'aspects pratiques, habitudes, du côté aliénant de l'informatique, et l'informatique libre, le logiciel libre, vise justement à libérer les personnes. Donc, quelles sont les conséquences du constat que tu fais par rapport à tes pratiques de sensibilisation de ces collectifs pour le logiciel libre et d'installation de logiciels libres ?
Oui, alors moi, il y a presque pour moi un paradoxe, c'est qu'effectivement, le logiciel libre, c'est un message d'émancipation, puisqu'il s'agit de retrouver justement le contrôle de sa machine, le contrôle de ses logiciels, savoir ce qui fonctionne réellement. Simplement, c'est aussi un message très exigeant, puisqu'il s'agit d'aller, dans l'absolu, il s'agit d'aller regarder le code et regarder comment c'est possible. Ce que, évidemment, on ne fait pas quand ce n'est pas son métier, surtout dans un cadre professionnel. Un amateur peut le faire sur son propre ordinateur, mais quand on est face à un logiciel comptable ou n'importe quoi, un comptable n'a pas cette capacité, n'a pas cette connaissance, n'aura pas la formation. On ne lui donnera jamais la formation, d'ailleurs, pour le faire. Et donc, au fond, je dirais presque le message du logiciel libre est presque culpabilisant, dans le sens où j'ai eu l'expérience avec quelqu'un qui m'avait dit, mais au fond, quand j'ai un problème avec, c'était il y a une dizaine d'années, avec Microsoft, et j'ai un écran bleu, mais au fond, je me dis, c'est la multinationale, méchant Microsoft, et ça permet finalement de se défouler. Alors que quand le problème venait d'un logiciel libre, ça renvoyait aussi à la propre incapacité de la personne de contrôler son environnement. Et j'avais presque l'hostilité vis-à-vis de l'informatique était encore accrue vis-à-vis du logiciel libre, qui avait presque une image encore plus technique et informatique que le reste. Et au fond, j'avais l'impression qu'on avait plus d'efforts à faire pour montrer que non, ce ne sont pas des... L'ordinateur ne vous fait pas du mal quand il se plante. C'est bon, il y a un apprivoisement, il y a un apprentissage, et c'est possible. Mais voilà, c'est l'impression que j'ai qu'au fond on était encore plus identifiés comme une race à part, on va dire.
D'accord. Mais en tout cas, c'est surtout une image, parce que finalement, si on réfléchit bien et quand on explique aux gens, le logiciel libre vise aussi à expliquer plus concrètement comment fonctionne l'informatique et que les bugs, ça existe, que ce n'est pas forcément la faute de la personne qui utilise l'ordinateur, que ça peut être corrigé et que quelque part, justement, ça change ce modèle de relation entre la personne qui utilise un ordinateur et les logiciels, qu'il n'y avait pas dans le logiciel privateur comme Microsoft. Alors, c'est vrai que ça me fait penser quand tu parles, oui, c'est Microsoft, ça fait penser aussi à l'époque, quand dans les grandes entreprises, il y avait des problèmes avec IBM, on disait, de toute façon, c'est les hommes en bleu, parce qu'à l'époque, ils étaient souvent habillés avec des costards, les personnes, et c'est pas de notre faute, etc. Pourtant, le logiciel libre essaye de renverser un petit peu cette tendance. Mais toi, tu constates que dans les collectifs, en fait, ça demande quand même beaucoup de travail d'explication. Et donc, quelles seraient les perspectives ou les pistes pour l'avenir ?
Alors, la situation a quand même bien évolué depuis que je suis dans ce milieu. On sent une sensibilisation accrue. Je pense que les gens ont conscience que l'informatique n'est pas un monde à part, de moins en moins. Et notamment avec toute la question des communs numériques, c'est plus réservé à quelque chose vraiment, c'est pas isolé par rapport au reste. Et je pense que les collectifs sentent mieux cette importance, le fait que c'est un fait de société un peu essentiel. Et je le sens aussi qu'il y a une demande qui commence à s'exprimer. Dans ce cas-là, il faut, de manière presque spontanée, des gens autour de ces questions-là. C'est de plus en plus intégré dans la démarche des gens et des collectifs. Donc, je suis très optimiste là-dessus. Simplement, effectivement, je pense que faut prendre son bâton de pèlerin, et c'est un travail de long terme qui porte ses fruits, mais qui ne se fait pas dans un claquement de doigts, parce que le problème de l'informatique, c'est que c'est très facile de mettre en place des choses, d'installer quelque chose. Le plus dur, c'est de maintenir. Et c'est souvent d'ailleurs dans ce défaut de maintenance que se pose le problème. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Moi, ce que je vois, c'est que les gens comprennent bien. J'ai l'avantage, donc je programme des logiciels qui sont utilisés et je suis en contact direct avec les utilisateurs. Donc ça, ils apprécient le fait effectivement de pouvoir me remonter immédiatement les problèmes et les voir corrigés. Quand le logiciel libre est un système, c'est le système d'exploitation et qu'effectivement, il n'y a pas. On ne sait pas trop à qui s'adresser, là c'est plus compliqué, mais
D'accord. D'où l'importance aussi de l'accompagnement physique que tu fais auprès des collectifs. Alors, ce sera un peu la thématique récurrente de ta chronique, où là, on a échangé en termes généraux, mais dans les prochaines chroniques, tu prendras des points particuliers, des exemples. Tu parleras aussi des fonctions cachées de certains logiciels, des fonctions magnifiques qu'on découvre totalement par hasard, ou au contraire, des rajouts de fonctionnalités qui perturbent la personne qui utilise l'ordinateur, parce qu'elle était habituée à autre chose. C'est tous ces sujets-là que
Oui.
tu aborderas de par ton expérience d'accompagnement de collectif. Est-ce que je crois qu'Étienne veut poser une question ou rajouter quelque chose.
Je trouve très intéressant en fait ce que tu dis, la manière dont tu l'abordes, et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que moi j'ai l'impression, parce que justement, je suis pas informaticien, et pourtant au sein de l'April, je défends le logiciel libre, et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que je ressens et dans la manière dont j'ai l'impression de le défendre et dans ce pourquoi je me bats. C'est-à-dire que de réfléchir que le logiciel libre, c'est une manière en fait de réfléchir politiquement la place de l'informatique. Et de savoir voilà, que le logiciel libre soit libre ou non, quand il est imposé aux gens, quand il conditionne les usages, quand il est imposé et que les gens doivent adapter leur manière de collaborer, de travailler au logiciel qu'on leur impose, forcément c'est aliénant. Et toute la réflexion, c'est de repartir des besoins effectifs. Et voilà, c'est comme ça que ça va se construire, avec toujours aussi ces notions de confiance. Et voilà, moi, en tant que non-informaticien, j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis parce que. Il y a des gens en qui je fais confiance, qui m'ont recommandé un outil, par exemple, et je sais qu'il y a une sorte de manière vertueuse de produire, enfin de créer de l'informatique, et c'est pour ça que je peux avoir confiance. Donc, mais je trouve que c'est très intéressant la manière dont tu renverses justement tout ça, toute cette réflexion. Ouais.
Oui, je pense que l'informatique est un objet technique, mais ne doit pas être seulement ça. C'est toute la question de la maîtrise sociale de la technique et des sciences. Hein. C'est de montrer que ce n'est pas qu'un sujet d'expert, et c'est un sujet qui nous concerne tous au quotidien.
Eh bien, écoute, on te remercie Vincent pour cette donc, première édition de la chronique Jouons collectif. On va sans doute se retrouver le mois prochain.